RSE Radio, la web radio 100% dédiée au directeur de la responsabilité sociétale des entreprises, co-animée par Alain Marty et Pauline Riglet, en partenariat avec l'entreprise Metron et le groupe EPSA.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la RSE et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, RSE Radio, Thierry Dubas TV. Ici à mes côtés pour co-animer cette émission, Vincent Ciandra, président de Metron. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Et Timothée Kellard, cofondateur d'EcoDev. Bonjour Timothée.
Bonjour.
Et à mes côtés également, Pauline Riglet, rédactrice en chef adjointe de RSE Radio. Pauline, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, Publicis France est à l'honneur.
Exact, Alain, puisque nous accueillons aujourd'hui Caroline Darmon, directrice RSE de Publicis France. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Alors, vous êtes née à Paris et votre premier job se situait sur les Champs-Élysées. Et celui d'aujourd'hui est encore sur les Champs. Passer sa vie sur la plus belle et la plus célèbre avenue du monde, est-ce que c'était un rêve pour vous ?
Alors c'était un rêve, oui, c'était un rêve de rentrer chez Publicis qui est depuis des années et des années, historiquement quasi depuis le début sur les Champs-Élysées. Donc sincèrement oui, quand j'ai commencé à me dire que la pub m'intéressait et donc ça remonte à mes 12-13 ans, Publicis c'était vraiment un rêve pour le coup.
Alors un mot sur votre parcours, vous avez fait une prépa HEC à Saint-Maur-des-Fossés et ensuite un TBS de commerce avec une spécialisation marketing à Subdeco Toulouse avec à la clé un MBA. Pendant vos études, vous faites 3 stages en entreprise, Air Inter, et vous qui aimez la pub depuis votre adolescence, vous l'avez dit, vous réalisez un stage chez RSCG et DDB. Alors pourquoi cet attrait pour la pub si tôt ?
Eh bien, c'est une bonne question. Je n'ai pas complètement la réponse. Non, je pense qu'il y avait un côté attrait à l'époque, parce que je suis un peu vieille. La pub, c'était ce qu'on voyait à la télé. C'était les spots de pub. Et il y avait un côté quand même très divertissant dans la publicité. Un côté aussi créatif. Et donc, très rapidement, ma famille n'a rien à voir avec ce métier. J'ai aucun publicitaire dans ma famille. Mais voilà, il y avait un côté qui mêlait à la fois le fun, le business. Et donc, j'étais attirée tout de suite par ça. Et après, je me disais, j'adorais le dessin, j'adorais la création. Mais je me disais, non, mais t'es pas assez douée pour être dans la partie créative. Donc, qu'est-ce qui peut exister ? Et du coup, en agence, il y a 2 grandes parties, créatifs et commerciaux. Et donc, du coup, j'ai été plutôt sur le côté commercial.
Alors, votre premier job, vous le faites dans une agence de pub, aujourd'hui disparue, Nouvelle Eldorado, qui faisait partie du groupe Havas. Alors, expliquez-nous, c'était quoi votre fonction à ce moment-là ?
Alors, à ce moment-là, j'ai eu 2 fonctions. J'ai eu d'abord une première fonction qui était commerciale classique, donc en gravissant les échelons, puisqu'on commence déjà chef quand on est dans la pub, donc on commence chef de pub, puis chef de groupe, directeur de clientèle, etc. Assez rapidement, j'ai fait une petite pause pour faire un congé sabbatique. En fait, et je suis partie sac à dos pendant 6 mois et je suis revenue.
Où
ça ? Et quand je suis revenue, en Asie.
En Asie ?
En Asie, un grand trip en Asie qui a été super. Une belle pause. Ça faisait que 3 ans que je travaillais, mais déjà besoin d'une pause. Et par contre, quand je suis revenue, donc Nouvelle Eldorado avait accepté en effet que je revienne. Il m'avait accordé ce congé sabbatique qui était légalement pas un congé sabbatique, parce que j'avais pas assez d'ancienneté. Et quand je suis revenue, il y avait plus de poste commercial à mon niveau. Donc en fait, j'ai fait du newbies aussi. Et là, pendant 3 ans, en l'occurrence. Et donc là, l'idée, c'était vraiment de gagner de nouveaux clients. Et c'était assez passionnant parce qu'en fait, en l'espace de très peu de temps, il faut qu'on comprenne une problématique d'un secteur, la problématique d'un client, et puis qu'on lui donne envie et qu'on trouve la bonne solution et qu'on lui donne envie de travailler avec l'agence.
Alors, en 2012, ça y est, c'est la grande aventure avec Publicis qui commence. Et dès 2013, l'entreprise crée le département RSE dans lequel vous travaillez sur toutes les problématiques jusqu'à devenir aujourd'hui directrice de la RSE Publicis France, est-ce que ce poste répond à vos attentes professionnelles ?
Oui, tout à fait. Et c'est un vrai switch qui est hyper intéressant parce que c'est de l'intrapreneuriat en fait que j'ai fait. Puisque un jour j'ai été tapée à la porte d'Arthur Sadoun qui n'était pas encore le grand patron de Publicis qu'il est aujourd'hui au niveau du groupe, en lui disant écoute, voilà, je pense que vraiment il y a une révolution qui est en train de se passer et donc il faut qu'on puisse accompagner nos clients, il faut qu'on change en interne. Et donc il a eu le nez entre guillemets pour dire bah oui, t'as raison. Et puis voilà, ça s'est fait au fur et à mesure. J'ai d'abord été en effet directrice RSE de Publicis Conseil, qui est l'agence fondatrice du groupe. Et puis en 2019, Agathe Bousquet a créé un poste, le premier poste, et encore pour l'instant le seul poste au niveau du groupe Publicis, qui est un poste transverse France, le pays en l'occurrence, donc pour l'instant France. Et objectivement, oui, je suis hyper heureuse dans ce poste. Déjà, Un, parce que il a fallu tout créer from scratch, et ça, c'est un vrai challenge.
Ça, c'est bien.
D'embarquer tout le monde, et c'est vrai qu'objectivement, en 2013-2014, il y avait quelques freins quand même sur le sujet. Et donc aujourd'hui, ce qui est super, c'est qu'il n'y a plus de freins. Il y a juste à construire que les collaborateurs sont convaincus, que la direction est convaincue, et très supportive. Et puis surtout, voilà, il n'y a plus le choix. Donc de toute façon, il faut y aller.
Et combien de collaborateurs en France,
Caroline ? Il y a 4500 collaborateurs.
4500 collaborateurs. Vincent ?
Oui, bonjour. Je me posais une question. Est-ce que aujourd'hui vos clients eux-mêmes vous demandent votre impact, votre politique RSE ? Est-ce que dans le choix de prendre Publicis pour leur projet, est-ce que c'est quelque chose qu'ils mettent en avant comme quelque chose d'important pour eux ?
Oui, tout à fait. Et ça a énormément progressé ces derniers temps. C'est-à-dire que si vous m'aviez posé la question il y a 3-4 ans, je vous aurais dit oui, dans les pitchs, donc dans les compétitions qu'on fait, il y a des questionnaires RSE, mais ça va valoir pour 3%, 5% de la note finale. Et puis, il va y avoir que 20% des pitchs où les annonceurs vont demander de savoir quelle est notre politique, où est-ce qu'on va, etc. Aujourd'hui, on est à plus de 80% des compétitions où il y a une demande de la part des annonceurs pour savoir quelle stratégie RSE est-ce qu'on a, quelle est notre politique, si on est audité, si on est labellisé, si on est certifié, si ce qu'on dit, ce n'est pas juste des paroles, mais c'est vraiment des actes qui sont validés par des tiers extérieurs.
80%, c'est énorme.
Hein, ouais. Et on va arriver à 100%. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le switch, c'est-à-dire qu'en effet, ça comptait peu pour le choix d'une agence il y a encore 3-4 ans. Aujourd'hui, ça monte à 25%, parfois à 30% même globalement. Bon, toujours derrière le budget, mais un jour, on y croit, sera en premier.
Toujours les sous, Vincent.
Et voilà. J'ai même vu que vous avez développé des outils propriétaires pour aider vos clients justement à mesurer l'impact, c'est ça, si j'ai bien compris ?
Oui, tout à fait. En fait, on a dans nos différents axes, un des prioritaires, c'est de changer, de transformer notre métier. Et de transformer notre métier pour faire en sorte que la communication de nos clients soit plus responsable. Et donc, du coup, tout simplement, on a mis en place un process avec différents outils où on s'est dit, on va faire comme nos clients, on va faire l'analyse de cycle de vie des campagnes de communication, des événements, des sites internet, etc. On va regarder où sont nos impacts. On va voir si on a déjà des solutions en interne qui permettent de diminuer ces impacts ou pas, des outils. Et puis, quand on les a pas, on va aller chercher des parties prenantes extérieures qui vont nous aider à justement progresser sur ces sujets. Donc, typiquement, on est très proche d'EcoProd sur tout ce qui est production responsable dans un premier temps, parce qu'on a commencé à faire ça en 2017, donc c'était assez précurseur aussi. Et donc maintenant, on a vraiment intégré toute la prod responsable en interne, et donc faire un tournage responsable, prise de vue responsable, on est capable de le faire tout seul comme des grands, mais avec des process, des cahiers des charges et de la mesure, je vais en parler. On a été chercher par exemple le collectif Green IT également avec Frédéric Bordage sur la partie éco-conception numérique. Donc voilà, donc on a mis en place beaucoup d'outils, et à travers ce process qui s'appelle No Impact for Big Impact, où on a fait ce nom-là pour faire un clin d'œil à l'objectif principal en général qu'on cherche dans la pub, c'est l'impact, dans la communication, c'est l'impact, mais là, le but, c'est d'en avoir le moins possible.
Et j'ai vu aussi que vous aviez du coup des ambitions assez fortes sur vos objectifs de décarbonation, si je dirais, en tout cas pour être en ligne avec les objectifs des accords de Paris. J'ai cru lire que c'était quand même quelque chose d'assez important, d'assez embarqué dans la stratégie RSE du groupe. Et est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui un peu où vous en êtes sur cette feuille de route, à quel stade vous êtes
Bien sûr. Cette politique. Alors aujourd'hui, on s'est fixé d'être fameux carbone neutral en 2030. On a revu nos objectifs à la hausse ou à la baisse, suivant de quel point de vue on se place, parce qu'on avait déjà atteint ceux qu'on voulait atteindre en 2020. Et on les a fait aussi challenger par SBTI, de manière à ce que ça soit pas juste des dires, mais qu'on soit vraiment concret dans les actes et que derrière, on sache que c'est des objectifs qu'on peut vraiment atteindre. Et donc, du coup, avec nos scopes 1 et scopes 2 qui sont importants et qu'on continue à diminuer, mais comme toute entreprise de service, du coup, ça se limite à tout ce qui est transport, énergie, etc. Et le scope 3, qui est là ce dont on parlait juste avant, qui est le côté, toutes les campagnes qu'on fait, les événements, etc., pour nos clients et de la mesure de ces campagnes. Et pour ça également, on a développé un outil propre avec Bureau Veritas.
Timothée.
Concernant justement les émissions de gaz à effet de serre, je me posais la question de savoir si les clients avec lesquels vous travaillez sont engagés aujourd'hui sur, avec vous sur une réduction sur les impacts indirects.
Alors, ils commencent à l'être de plus en plus. Pareil, vous m'auriez posé la question il y a 3 ans, je vous aurais dit, bah, malheureusement, on a du mal à aller jusque-là. Mais ce qui est aussi logique, puisque les clients, dans un premier temps, vont d'abord se soucier de leurs propres impacts. Et quand on a un Nestlé, quand on a un Renault, etc., ils vont d'abord regarder pour diminuer leurs impacts directs. Et après, leur fameux scope 3, dans lequel il y a la communication. Donc, beaucoup moins, mais il y a une vraie accélération depuis 2 ans. Et notamment aussi grâce au programme FAIR, qui a été mis en place par l'Union des marques, qui est un programme d'engagement justement des annonceurs pour une communication plus responsable et notamment en effet de l'éco-production, de l'éco-conception, numérique et pas, de une meilleure, parce qu'on parle là d'environnement, mais il y a aussi une meilleure représentation de la diversité par exemple. Enfin voilà, beaucoup de choses. Et du coup, c'est vrai que ça a accéléré parce qu'il y a des comptes aussi à rendre. Et puis après, il y a aussi la loi. Puisque la loi climat et résilience est passée la fin août, il y a eu un rapport pour compléter sur la partie communication qui a été fait par Agathe Bousquet et Arnaud Leroy de l'ADEME, donc Agathe Bousquet, notre boss France chez Publicis, qui est sur justement des engagements volontaires de la filière pour diminuer ses impacts et à commencer aussi par la promotion des produits qu'on va faire en communication, que ce soit des produits et des services qui aient le moins d'impact possible pour changer les comportements, etc., etc.
Et sur ce point des produits, est-ce que vous commencez à sentir les prémices d'une attente de produits plus éco-responsables avec des engagements associés sur l'impact environnemental, mais pas que? Et est-ce que ça devient vendeur de pouvoir faire la promotion des impacts qui ont du sens?
Bah ouais, enfin, oui, tout à fait.
Ça y est,
c'est une bonne nouvelle. Retour, oui. Non, mais c'est une très bonne nouvelle parce que aujourd'hui, le rôle de la pub, justement, et de la communication au sens large, ça va être vraiment de rendre sexy ces comportements durables, si je dois parler un peu. Et de plus pousser à la surconsommation. Ça a été notre tort pendant des années. Aujourd'hui, on le reconnaît tous. Et on va tous dans ce sens-là, justement, d'essayer de se dire comment. Voilà, notre challenge, c'est ça. C'est vraiment comment rendre désirable ces nouveaux comportements de communication, ces nouvelles représentations, etc. J'ai envie de citer un film publiciste, sinon ce serait pas drôle, mais la dernière campagne de Renault, on a fait une campagne Renault qui met en avant des véhicules électriques, et en fait on a expliqué que même si ces véhicules électriques consommaient moins, etc., le mieux c'était aussi de ne pas s'en servir tout le temps. Et donc on met en avant dans cette campagne, c'est un film télé, on met en avant justement le fait de, ben, quand on va chercher son pain, on n'est pas obligé d'aller prendre sa voiture, etc., etc. Donc oui, et sincèrement c'est un film qui est vraiment bien.
Génial. Et concernant les autres sujets de la RSE, parce que là on a beaucoup parlé de climat finalement, d'impact carbone, qu'est-ce que vous pourriez nous mettre en avant, on va dire, par rapport aux attentes surtout des promoteurs ou des publicitaires?
Alors là aussi, il y a eu un. Donc, si on se concentre sur le métier de communicant, il y a eu une grosse explosion entre guillemets de l'intérêt pour une meilleure représentation de la diversité et de l'inclusion dans la communication ces derniers temps. Forcément, depuis 2 ans en particulier, parce que on suit nous aussi l'actualité, etc. Et donc, par exemple, chez Publicis, nous, on s'est rendu compte que même si c'est quelque chose qu'on poussait énormément, à la demande de nos collaborateurs d'ailleurs, on a créé une charte pour une meilleure représentation de la diversité et de l'inclusion dans nos communications, et une fois encore, quelle qu'elle soit, un site internet comme un film, etc., pour déjà créer un vrai contrat entre le client, l'annonceur et nous, pour se dire, voilà, il ne faut pas qu'on oublie. On crée des imaginaires et on doit faire en sorte que n'importe qui puisse se projeter dans les communications qu'on fait. Et on ne peut se projeter que si on représente réellement la diversité, la société telle qu'elle est, et on a une société française qui a la chance d'être très diverse. Et quand je dis diverse, c'est pas que de la diversité d'origine, c'est aussi montrer bien sûr des genres différents, montrer plus de personnes en situation de handicap et des personnes qui vont pas jouer entre guillemets la personne handicapée, mais qui vont avoir un vrai rôle, un rôle classique, mais à qui on va donner, mettre en avant aussi des nouvelles formes de parentalité, etc., etc. Et ça a énormément accéléré, heureusement, ces derniers temps.
Caroline, vous échangez en matière de RSE avec les autres filiales de Publicis dans le monde? Il y a un peu de synergie, ça communique?
Alors
ça
déjà,
échange.
On fait beaucoup en France, parce qu'on est déjà 30, il y a 30 entités en France, et en effet, on commence de toute façon, moi je travaille beaucoup avec aussi Eve Magnan, qui est directrice RSE groupe de Publicis. Après, la réalité, c'est qu'on échange assez régulièrement avec le UK, par exemple, ou les États-Unis. Mais il est vrai qu'une fois n'est pas coutume, on peut être chauvin. La France est très avancée en fait sur ces sujets de communication responsable. Et donc nous, il se trouve que la France, en plus chez Publicis, est énormément avancée. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est le pays le plus avancé sur l'intégralité en fait de ce process de communication responsable.
Cocorico, Caroline. Tout et côté fait. Musique française, vous êtes plutôt Brel ou Stromae?
Les deux, mon capitaine.
Ouais. Et le concert d'Angèle, il était comment?
Il était top avec ma fille en plus.
Ouais. Vous êtes allé quand même 12 fois au Brésil, c'est un record là. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Il y a une raison particulière?
Ouais, j'ai mon petit frère qui vit au Brésil depuis plus de 10 ans et qui fait sa vie chez Renault en particulier, mais aussi surtout sa vie familiale là-bas.
Bon, et pour terminer, un commentaire sur la nouvelle économie de Jacques Attali, ça vous a plu?
Dans la continuité habituelle de ce qu'il fait.
Merci beaucoup Caroline, merci également à vous Pauline, Vincent et Timothée. Fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
L'invité de la semaine de RSE Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Netron et le groupe EPSA.